Allez, sans masque ni corona, voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La progression du coronavirus est-elle en train de franchir un cap en France ? Hier soir, le ministre de la Santé a révélé 20 cas supplémentaires, deux fois plus que mercredi, ce qui porte à 38 au total le nombre de malades détectés en France. Des liens ont pu être établis entre eux, précision dans un instant.
Un affrontement direct peut-il encore être évité en Syrie entre la Turquie et le régime de Bachar el-Assad avec son allié russe?
L'ONU appelle en tout cas au calme après que la Turquie a visé sur terre et dans les airs des positions militaires de Damas, représailles aux 33 soldats turcs tués dans la province d'Idlib, frontalière de la Turquie. Les civils pourraient encore être les victimes de ce regain de tension, chantage à la crise migratoire, analyse à suivre à Istanbul et reportage également de notre envoyé spécial à la frontière avec la Syrie.
Et puis à la une encore, la justice britannique a donné raison hier aux écologistes en rejetant le projet d'extension de l'aéroport Heathrow à Londres.
De quoi donner des ailes au collectif qui s'oppose à l'extension de l'aéroport de Roissy en France et la construction d'un terminal 4.
Et puis dans une dizaine de minutes, la question du jour, Catherine, pourquoi des centaines de dauphins s'échouent-ils sur les plages de l'Ouest? Nous poserons la question à Olivier Adam, il est professeur à Sorbonne Université, spécialiste des mammifères marins.
C'est la première fois en France que l'on en recense autant en une seule journée. 20 nouveaux malades du coronavirus ont été diagnostiqués hier, 38 cas recensés au total. De sont morts, je le rappelle, 12 ont été guéris, 24 sont toujours hospitalisés. Mais la bonne nouvelle, si l'on peut dire, c'est que les cas annoncés hier ont une traçabilité assez claire. Bonjour Tara Schlegel.
Bonjour.
Les autorités sanitaires et politiques ont donc pu établir des liens entre les nouveaux malades.
Oui, dans son point de presse quotidien, le nouveau ministre de la Santé n'y est pas allé par quatre chemins.
Nous faisons face à une augmentation sensible du nombre de cas sur notre territoire.
Augmentation, ajoute Olivier Véran, dont on a pu comprendre les chaînes de transmission grâce aux enquêtes en cours. Les autorités sanitaires sont remontées vers des individus, des personnes contacts comme on dit, qui ont croisé les malades déjà répertoriés. Alors le principal foyer de contamination reste l'Oise avec 12 nouveaux cas et notamment 3 parmi les collègues du chauffeur de 55 ans, toujours hospitalisé à Amiens dans un état grave et qui travaille sur la base militaire de Creil. Les autres sont des proches ou des personnes qui ont croisé cet homme ou l'enseignant de 60 ans qui, lui, est décédé. D'ailleurs, le collège de Crépy en Valois, où travaillait le sexagénaire, reste fermé jusqu'à jeudi, finalement, et des consultations médicales vont être ouvertes pour les 829 élèves et leurs enseignants. Autre chaîne de transmission en Haute-Savoie, la femme, la fille et un ami d'un patient déjà hospitalisé à Annecy ont été dépistés et sont donc malades. Et puis, grâce à la stratégie annoncée hier, qui revient à tester tous les patients atteints d'une forme grave de pneumonie en France, le ministre a pu annoncer.
Deux personnes sont actuellement hospitalisées dans un état grave qui faisait partie d'un groupe de 20 personnes qui s'est rendu en Égypte dans le cadre d'un voyage organisé. Là aussi, les investigations se poursuivent auprès de l'ensemble des voyageurs et des personnes contacts.
Voilà, donc d'autres cas isolés ont encore été découverts, notamment des touristes revenant de Lombardie. À chaque fois, il y a donc une explication, mais pour l'instant, les autorités n'ont pas retrouvé le ou les patients zéro à l'origine du foyer infectieux dans l'Oise.
Tara Schlegel, merci pour toutes ces explications. L'épidémie de coronavirus qui continue à s'étendre encore dans le monde, plus de 250 nouvelles contaminations en Corée du Sud, pays le plus touché après la Chine, où, et c'est tout un symbole de l'inquiétude durable, un poids lourd de l'industrie musicale, les stars de la K-pop, la pop coréenne, le groupe BTS, annonce l'annulation de concerts géants prévus en avril à Séoul. Le Japon ferme ses écoles, l'Arabie Saoudite arrête d'accueillir les pèlerins à la Mecque, 106 contaminations supplémentaires encore hier en Iran. Et puis en Europe, l'Italie a vu passer le nombre de cas à 650 hier, contre 400 avant-hier. Après avoir joué pourtant à Lyon, la Juventus affrontera l'Inter Milan à huis clos ce week-end dans le championnat de football en Italie. Et puis, le premier cas de coronavirus en Afrique subsaharienne a été confirmé ce matin au Nigeria, dans la province de Lagos, où est située la capitale éponyme et ses 20 millions d'habitants. La crainte d'une pandémie fait chuter les marchés financiers mondiaux.
7h04 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Si rien n'est fait, s'inquiète l'ONU, le risque d'escalade augmente d'heure en heure dans le nord-ouest de la Syrie.
Où au moins 33 soldats turcs ont été tués hier selon Ankara dans des frappes aériennes offensives du régime syrien appuyées par l'aviation russe pour reprendre la province d'Idlib, dernier bastion des insurgés dans le nord-ouest de la Syrie, donc une zone frontalière de la Turquie qui soutient certains groupes rebelles. Damas et Moscou doivent mettre fin à cette offensive odieuse, demandent les États-Unis qui soutiennent ainsi leur allié de l'OTAN, la Turquie. Ankara montre à son tour les muscles et indique que toutes les positions connues du régime syrien ont été prises sous le feu de l'aviation turque soutenue par des unités au sol. Bonjour Anand Lauer.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante de France Culture à Istanbul. On le comprend, la Turquie ne veut donc pas baisser les armes face au régime syrien et à son allié russe.
Oui, car c'est d'ores et déjà l'une des attaques les plus meurtrières jamais subies par l'armée turque dans son histoire récente, ce qui donne une idée de l'émoi que la nouvelle a suscité dans le pays. Selon le préfet de Hatay, province frontalière d'Idleb où sont hospitalisés les nombreux blessés, l'aviation syrienne, car c'est pour l'instant le régime syrien qu'Ankara met officiellement en cause, a frappé les militaires turcs dans la localité de Balouan, au sud-ouest de Sarakeb, une ville reprise quelques heures plus tôt par les rebelles syriens soutenus par Ankara. La Turquie assure avoir riposté immédiatement et lourdement. Toutes les positions connues du régime ont été prises sous le feu de nos unités terrestres et aériennes. C'est ce qu'a affirmé le directeur de la communication de la présidence dans un communiqué. Le vice-président turc Fuat Oktay a martelé pour sa part que le président syrien Bachar el-Assad, qualifié de chef d'un état terroriste, et les éléments du régime paieraient, je cite, un lourd tribut pour cette attaque vile. Quant au chef de l'État, Recep Tayyip Erdogan, il a réuni pendant plus de 6 heures un conseil de sécurité extraordinaire pour décider notamment de la suite des opérations de l'armée turque à Idleb, où des milliers de soldats sont déployés depuis le début du mois sans couverture aérienne. La Turquie appelle l'OTAN à lui apporter un soutien concret et agite une fois de plus la menace migratoire. Après l'attaque, des sources d'officiels turcs citées par l'agence Reuters ont ainsi affirmé qu'Ankara n'empêcherait plus le passage par la terre ou la mer de réfugiés en Europe, un moyen évident de faire pression sur les Occidentaux pour qu'ils soutiennent la Turquie face au régime syrien et son allié russe à Idleb.
Anne Andlauer, merci. Vous êtes, je le rappelle, la correspondante de France Culture en Turquie. Et avec ce nouveau regain de tension à Idlib, la situation est de plus en plus insoutenable pour les civils pris entre les bombes et les combats terrestres dans cette enclave. Près d'un million d'hommes, de femmes et d'enfants ont été poussés sur les routes de l'Exode depuis le mois de décembre, dormant parfois dehors dans la rigueur de l'hiver syrien, sans nourriture, sans eau, sans accès à des hôpitaux. Ils cherchent à fuir par tous les moyens les combats dans ce qui est la pire crise humanitaire depuis le début de la crise de la guerre en Syrie. Les passeurs, eux, se frottent les mains, comme en témoignent des Syriens qu'Aurélien Colli a pu rencontrer à la frontière turque à Reyhanli.
Il s'appelle Omar, il a 25 ans, arrivé d'Idlib il y a 48 heures grâce à un réseau de passeurs. Ils nous ont emmenés à la frontière, on a franchi le mur pendant la pause déjeuner des soldats turcs. On a couru 200 mètres à découvert, on s'est caché dans un fossé et une voiture est venue nous récupérer, raconte le jeune homme qui a payé $600 pour quitter l'enfer d'Idlib. Là où j'ai eu vraiment peur, c'est le passage du mur, c'est le plus dangereux, les soldats turcs peuvent te voir et tirer, explique Omar en acceptant de donner le contact de son passeur. L'homme refuse catégoriquement de rencontrer un journaliste, mais par téléphone, il donne les tarifs. Si c'est par le poste frontière, il n'y a pas de danger, on fait un faux laissez-passer, mais c'est $3000. Sinon, pour $2000, tu passes le mur et on s'arrange pour que les soldats turcs ferment les yeux. Le moins cher, c'est $600, détaille-t-il, la formule sans complicité qui est aussi la plus risquée. S'il t'attrape, tu te fais tabasser et renvoyer en Syrie. S'il ne tire pas, on ne sait pas ce qui peut arriver. Parce qu'aujourd'hui, la situation est très tendue et les Turcs sont très stricts, met en garde le passeur, en ajoutant que malgré ça, les candidats au départ ne manquent pas, vu la situation désastreuse à Idlib.
Aurélien Colli à Reyhanli, ville turque à la frontière avec la Syrie. C'était impensable il y a encore quelques années. La justice britannique a rejeté hier l'extension de l'aéroport le plus fréquenté d'Europe, l'aéroport londonien Heathrow, et ce, pour raisons climatiques. La Cour d'appel de Londres s'est opposée à la construction d'une troisième piste, estimant que l'accord de Paris sur le climat n'avait pas été suffisamment pris en compte pour élaborer ce projet. Même si la direction d'Heathrow annonce qu'elle veut faire appel devant la Cour suprême britannique, les opposants en France à l'extension de l'aéroport de Roissy retrouvent un peu d'espoir. Audrey Boëlly est la porte-parole du collectif Non au Terminal 4 à Roissy.
C'est vraiment un tournant historique parce que ça montre que désormais il est nécessaire de juger en fait des projets d'infrastructure à l'aune de l'urgence climatique et en particulier les extensions d'aéroports, puisqu'on sait que l'aérien est un grave émetteur de gaz à effet de serre et qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui pour faire un avion zéro carbone. Ça n'existera pas ni à court ni à moyen terme. Donc la seule issue, c'est d'annuler ces extensions d'aéroports et en particulier celle de l'aéroport de Roissy, qui est une véritable bombe climatique.
Vous battez justement contre l'extension de l'aéroport de Roissy et vous dites qu'il est urgent de faire la même chose ici, en fait.
Exactement, il est urgent de faire la même chose ici. En France, il y a des dizaines d'extensions d'aéroports qui sont aujourd'hui prévues, un peu partout en France, Lyon, Nice, Caen, Beauvais, et aussi Roissy, qui est la plus grosse infrastructure aéroportuaire qui est en prévision et qui est énorme, puisque cette extension prévue est de la taille de l'aéroport d'Orly. Ce serait 40 millions de passagers supplémentaires par an. Donc c'est vraiment majeur et c'est une énorme bombe climatique.
Audrey Boëli, porte-parole du collectif Non au Terminal 4 à Roissy. Elle répondait à Véronique Rebérotte. Dans un contexte aérien compliqué, la direction d'Air France a annoncé hier la suppression d'environ 1500 postes sur 3 ans. Des départs naturels non remplacés, officiellement sans lien avec le coronavirus. Marie Viennot.
Après un plan de départ volontaire de 465 personnes annoncé en 2019 et qui est toujours en cours, place à partir de 2020 et pour 3 ans à un plan de départ, cette fois naturel. Plan de départ naturel, cela veut dire concrètement que sur les 3800 personnes qui sont censées quitter Air France dans les 3 ans pour cause de retraite, décès ou démission, la compagnie aérienne envisage de ne remplacer qu'une personne sur 2, soit 1770 postes non remplacés, selon les syndicats. Parallèlement, des embauches en plus sont prévues chez les pilotes. Selon le document présenté hier lors du Comité social et économique central d'Air France et consulté par l'AFP, ce qui fait au total 1500 postes en moins d'ici décembre 2022. C'est le personnel au sol qui fera le plus les frais de ces non-remplacements, en particulier ce qu'on appelle les fonctions support, c'est-à-dire les ressources humaines, la logistique et les finances. Même si les départs se feront naturellement, les syndicats s'inquiètent de la charge de travail qui pèsera ensuite sur ceux et celles qui resteront après 2022. Les ambitions du PDG d'Air France, Ben Smith, vont-elles bien au-delà, puisqu'il ambitionne de doubler la marge opérationnelle d'Air France KLM d'ici 2024. Mais ça, c'était avant que le coronavirus n'apparaisse. La compagnie estime pour le moment à 200 millions d'euros le coût de l'épidémie pour ses opérations.
Pour les journalistes des Cahiers du cinéma, c'est le clap de fin. La rédaction du mensuel emblématique de la Nouvelle Vague a décidé hier de quitter en bloc le magazine en désaccord avec les orientations et le profil de ses nouveaux actionnaires. Un choc alors que se tient ce soir la 45e cérémonie des Césars sans Roman Polanski, dont le film J'accuse est en tête des nominations. La cérémonie risque malgré tout d'être mouvementée, salle Pleyel à Paris. Des féministes veulent se faire entendre alors que le réalisateur franco-polonais est accusé par plusieurs femmes de violences sexuelles. Roman Polanski nommé 12 fois pour son film J'accuse. Le temps de ce vendredi 28 février, partagé entre nuages, éclaircies et pluie. Au meilleur de la journée, il fera entre 7 et 13 degrés sur la moitié nord du pays, jusqu'au massif central, compté de 13 à 19 degrés partout ailleurs. Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu.